de Conan Doyle, l'aventure de la crinière du lion. C'est un fait des plus singuliers qu'un problème plus abstrus et insolite que tous ceux qu'il m'ait été donné de rencontrer tout au long de ma carrière professionnelle m'ait été posé alors que je venais tout juste de prendre ma retraite et soit survenu, si je puis m'exprimer ainsi, juste sous mon nez. Les faits survinrent peu après que je me fus retiré dans ma modeste demeure de Sussex, ayant décidé de m'adonner entièrement aux délices de la vie de campagne, à laquelle j'avais si souvent aspiré lors de mes obscures années d'existence au cœur de la ville de Londres. À cette période de ma vie, le choix de mon bon Watson avait tout à fait dépassé mes entendements. Une visite impromptue au cours d'un week-end était le plus que j'ai jamais pu obtenir de lui. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il me faut me livrer par moi-même à l'écriture du présent compte-rendu. Ah, si Watson s'était alors trouvé avec moi, combien n'aurait-il pas décrit extraordinairement les faits et sublimé mon triomphe après que j'ai eu raison de toutes les difficultés? Il me faut, hélas, narrer par moi-même ce récit et relater en mes propres et simples termes les différentes étapes que j'eus à franchir avant de livrer au public le mystère de la crinière du lion. Mon cottage était situé sur le versant sud des Downs, duquel s'offrait à moi une vue superbe sur la Manche. À cet endroit, la côte constituait que de falaises crayeuses, que ne peuvent être argentées qu'au moyen d'un long et unique chemin tortueux, escarpé et glissant. Au bas de ce chemin s'étend, sur une centaine de yards, une plage de galets et de cailloux qui ne disparaît même pas à marée haute. On y trouve ici et là, en son sein, de petites voussures et cavités formant de merveilleuses piscines dont l'eau se renouvelle à chaque marée. Cette plage immense, admirable, s'étire sur un certain nombre de miles dans plusieurs directions, excepté de celle du petit village qui forme le creek de Fulworth et qui rompt sa course. Ma demeure est isolée. Ma femme de charge, mes abeilles et moi avons le domaine pour nous tous seuls. À une distance d'environ 800 mètres, se dresse l'établissement d'enseignement réputé du Harold Stackhurst, les Pignons, imposante propriété au sein de laquelle étudient les jeunes gens se destinant à diverses carrières sous l'égide de leur équipe de professeurs. Stackhurst, son directeur, avait été de son temps un Blue renommé de Cambridge et un brillant étudiant. Lui et moi, nous liâmes l'amitié au premier jour de mon arrivée sur la côte, et notre camaraderie devint par la suite telle que nous n'hésitions pas à nous rendre l'un chez l'autre au cours d'une soirée sans avoir au moins préalable reçu invitation. Vers la fin du mois de juillet 1907, la Manche se trouva agitée de terribles tempêtes qui abattit furieusement les vasques contre les flancs des falaises et laissa un lagon à marée basse. Au matin du jour où commence ce récit, le vent était tombé et l'air était sain et frais. Il était impossible d'envisager de travailler tant cette journée qui s'annonçait heureuse, délicieuse, et je sortis me promener avant l'heure du petit déjeuner afin de profiter de l'air exquis. J'empruntais le chemin de la falaise qui menait à la plage. Tout en marchant, je m'entendis appeler. Harold Stackhurst agitait ses bras dans ma direction en guise de bonjour. « Quelle belle matinée, monsieur Holmes. J'étais sûr de vous trouver ici. Vous allez piquer une tête à ce que je vois. Ah ah! Vos vieux réflexes ne vous abandonneront jamais, » dit-il en riant et en portant la main à une poche de son pardessus renflé. « Oui, Macpherson est sorti tôt. J'espérais le rencontrer ici. » Fitzroy Macpherson était le maître de science, un jeune homme de belle stature, dont l'existence se trouvait assombrie par une cardiopathie survenue à la suite d'une fièvre rhumatismale. Grand sportif, en dépit de son handicap, il excellait dans tous les sports qui n'exigeaient pas d'efforts intenses et subis. Été comme hiver, il pratiquait la natation, et il m'était souvent arrivé de le rejoindre, étant moi-même nageur. Ce fut à cet instant que nous l'aperçûmes. Le sommet de son crâne nous apparut au-dessus de la falaise au bas de laquelle prenait le finet le sentier. Puis sa silhouette tout entière émergea, mais vacillante, titubante. Un instant plus tard, nous le vîmes lever les bras au ciel en signe de détresse dans un cri terrible, puis il s'effondra, face contre terre, sur le sol. Starkus et moi nous ruâmes dans sa direction. Une cinquantaine de mètres nous séparaient de lui, et le retournâmes sur le dos. Macpherson rendait son dernier soupir. Ses yeux révulsés et son teint excessivement blafard ne pouvaient avoir d'autre interprétation. Une dernière étincelle de vie anima ses traits l'espace d'un instant. Il tenta d'annuler quelques mots d'une mise en garde dont la signification se perdit dans un murmure inaudible. D'un bredouillement indistinct, je ne perçus que les derniers mots qui s'échappèrent péniblement de ses lèvres, crinière de lion. Rien de moins obscur et dénué de sens que ces trois mots. Et pourtant, je ne pouvais mettre en doute que ce fussent bien là les dernières paroles que prononçait Fitzroy. Dans un ultime sursaut, le malheureux leva à nouveau ses bras demi au ciel, puis roula doucement sur le côté. Il était mort. Mon compagnon resta paralysé par la peur. Mais je conservais pour ma part tous mes sens en éveil, ce qui était absolument nécessaire, car nous nous trouvions vraisemblablement dans un des cas les plus étranges. Fitzroy n'était vêtu que d'un pardessus barbré, d'un pantalon et de chaussures et de toile délacée. En roulant sur le côté, son barbery, qui simplement était juste sur ses épaules, avait glissé, révélant un dos incroyablement meurtri. Nous restâmes stupéfaits d'étonnement. De larges raies noires barraient la peau, comme si l'homme avait été flagellé avec violence au moyen d'un fouet ou d'une poignée de fil de fer. L'instrument avec lequel cet ignoble traitement avait été administré semblait être de nature flexible, à en juger par les marques incurvées laissées aux extrémités de ses épaules et le long de ses côtes. Un mince filet de sang s'écoulait de son menton, provenant d'une morsure que le malheureux s'était faite à la lèvre alors qu'il se trouvait au paroxysme de son agonie. Les traits convulsés de son visage témoignaient de l'infamie de celle-ci. Je m'agenouillais près du corps, Starhurst se tenant toujours près de moi, quand une ombre apparut soudain au-dessus de nos têtes. Ian Murdoch, le professeur de mathématiques de l'établissement, nous avait rejoints. Grand, fin, à la mine sombre, d'un caractère si taciturne que nul ne pouvait prétendre avoir entretenu la moindre relation amicale avec lui, il semblait d'ordinaire évoluer dans un monde aussi abstrait que la matière qu'il tentait d'enseigner à ses élèves. Ses étudiants le croyaient un peu fou. Et il n'aurait sans doute pas hésité à le chahuter dans ses classes s'il ne s'était méfié du sang barbare qu'il supposait couler dans ses veines dans les veines de cet immense professeur aux yeux noirs et au teint bistré, d'un tempérament ordinairement sombre mais régulièrement ponctué de sautes d'humeur révélatrices d'une indéniable sauvagerie. Exaspéré un jour par les aboiements d'un chien appartenant à Macpherson, il s'était emparé de celui-ci et l'avait tout bonnement fait passer par la fenêtre. S'il n'avait été un si excellent professeur, Vandor aurait sans doute été remercié sur le champ par Starkust pour cet exploit. Tel était le caractère étrange de l'homme qui se tenait à présent derrière nous. Il semblait abasourdi par ce qu'il voyait, en dépit du fait que l'incident survenu jadis entre les deux hommes à propos du chien semblait indiquer que leur relation n'était pas empreinte de la plus grande sympathie. Le malheureux, y a-t-il quelque chose à faire? Vous trouviez-vous avec lui? Pouvez-vous nous dire ce qui lui est arrivé?
Non, je me suis levé en retard ce matin. Je ne suis pas encore rendu à la plage, j'arrive tout droit des pignons. Que puis-je faire pour me rendre utile?
Bien, vous pouvez vous précipiter au commissariat de Falkworth et les informer de ce drame.
Il disparut rapidement sans ajouter un mot et j'entrepris pour ma part de commencer à mener l'enquête qui s'imposait pendant que Starkust, toujours aussi abasourdi, resterait auprès du corps. Ma première intention fut naturellement de me rendre sur la plage. Du haut du sentier, je la surplombai tout entière. Elle était absolument déserte, en dehors de deux ou trois silhouettes que l'on apercevait se mouvant en direction du village de Falkworth. Rasséréné sur ce point, je me mis à descendre le sentier. Régulièrement, de la glaise ou de la marne s'y trouvait mêlée à de la craie, de sorte que je pouvais aisément suivre les traces de pas de Macpherson, descendant puis remontant le sentier qui s'y était réprimé. En jugé par l'absence d'autres empreintes, nul autre ne s'était rendu sur la plage en empruntant ce chemin de matin. J'observais à cet endroit une empreinte de main dont les doigts étaient orientés dans le sens de la montée qui indiquait que le pauvre Macpherson était tombé en remontant. Je notais également de petits creux ronds. Plusieurs fois, il avait dû s'effondrer sur les genoux. Au bas du sentier s'étendait l'imposant lagon laissé par la mer refoulée. Macpherson avait dû se dévêtir à cet endroit, car une serviette gisait encore sur un rocher. Elle était pliée et sèche, ce qui semblait indiquer que le malheureux ne s'était pas baigné. En arpentant les gelées, les galets, j'aperçus au milieu de petites plages de sable l'empreinte de ses sandales et de ses pieds déchaussés. Ce dernier point indiquait qu'il s'était disposé à se baigner, bien que la serviette pliée indiquât qu'il ne l'avait pas fait. Le problème apparaissait clairement défini. Il était plus étrange que tous ceux auxquels j'avais jusqu'alors été confronté. Macpherson n'avait pas dû passer plus d'un quart d'heure sur la plage. Starkust, l'ayant vu partir des pignons, étant sorti également quelques instants plus tard, il ne pouvait y avoir aucun doute à cela. Macpherson s'était apprêté à se baigner et avait ôté ses vêtements, comme en attestait l'empreinte de ses pieds nus sur le sable. Puis il avait subitement repassé en hâte ses vêtements, sans même prendre le temps d'en enfiler ou d'en enlacer certains, et s'en était retourné sans se baigner, tout du moins sans se sécher au moyen de la serviette qu'il avait pourtant apportée dans ce but. La raison de ce revirement ne pouvait résister qu'en la survenue de l'attaque. Certainement sauvage, brutale, à laquelle il avait succombé à la suite d'une lente agonie au cours de laquelle il s'était mordu la lèvre au sang et ne lui avait laissé que suffisamment de force pour tenter de remonter le sentier et y mourir. Quel était l'auteur de cette infâme barbarie? Il y avait, il est vrai, au bas des falaises, quelques petites grottes et cavités qui auraient pu abriter quelques criminels, mais les rayons du soleil devaient les éclairer si vivement qu'ils ne pouvaient se présenter aucun refuge possible susceptible de servir de cache. Il y avait bien, il est vrai, ces silhouettes s'éloignant de la plage, mais elles semblaient bien trop lointaines pour avoir pu jouer un quelconque rôle dans un crime. Le lagon d'une longueur imposante s'étirait tout entier entre eux et le rocher auprès duquel Macpherson s'était dévêtu. Et au large, deux ou trois bateaux de pêche se trouvaient à faible distance. Leurs occupants pouvaient aisément être identifiés et interrogés ultérieurement. Ainsi, plusieurs voies s'offraient-elles à l'enquête sans qu'aucune semble amener à un but décisif. Lorsque je retournais auprès du corps, j'y trouvais un petit groupe de badauds rassemblés autour de lui. Stockhurst tenait bien sûr toujours là, et Jan Murdoch venait également de le rejoindre, accompagné de l'agent du village, Anderson, un homme imposant, moustachu, brun, de cette race solide du Sussex, caractérisé par un infectible bon sens sous les dehors d'une apparente réserve. Anderson écouta avec la plus grande attention, nota tout bien scrupuleusement et m'attira finalement à part. « Je serais bien heureux que vous me conseilliez, monsieur Holmes. Il en va de ma carrière. Il va de soi que j'entendrai parler du pays si je faisais fausse route. Cela pourrait même bien remonter jusqu'à mes supérieurs de Lewis. » Je lui suggérais ainsi de faire venir son supérieur hiérarchique sur le champ et de mandater un médecin. Je préconisais que l'on ne déplaçât rien et que l'on minimisât autant que possible l'apparition de nouvelles empreintes de pas avant leurs arrivées respectives. J'entrepris ensuite d'examiner ce que contenaient les poches du mort. Je n'y trouvais rien d'autre qu'un mouchoir, un couteau de grande taille et un petit porte-carte. De celui-ci dépassait une feuille de papier. Je l'en extirpai et l'attendis à l'agent Anderson. C'était un billet écrit à la hâte d'une main féminine. J'y serai, n'aie crainte, signé Maud. Cela ressemblait évidemment à un rendez-vous amoureux. Mais où et quand celui-ci avait-il été convenu? L'agent réinséra le billet dans le porte-carte et le replaça en compagnie des autres objets dans les poches du Burberry de Macpherson. Puis, comme il m'apparut pour le mieux de s'en retourner chez moi afin d'y prendre mon petit déjeuner, qui s'était ainsi trouvé retardé, je repris le chemin de ma demeure, non sans avoir au préalable indiqué à l'agent Anderson qu'il serait selon moi judicieux de faire procéder à une fouille minutieuse du bas des falaises. Stockhurst me rejoignit au cours de la matinée et m'informa que le corps avait été transporté au pignon, d'où l'enquête suivait son cours. Il porta à mes connaissances de nouveaux éléments précis et dignes d'intérêt. Comme je m'y attendais, rien n'avait été décelé au bas des falaises, ni dans aucune des nombreuses petites grottes qui s'y trouvaient, qui put faire avancer l'enquête. Mais l'examen du bureau de Macpherson avait révélé l'existence d'une correspondance intime avec une certaine Miss Maud Bellamy du village de Fulworth. L'identité du mystérieux auteur du billet se trouvait donc établie. « La police a saisi les lettres, » me dit Starkest d'un air contrit. « Je n'ai pas obtenu la permission de vous les amener, mais il ne fait aucun doute qu'elles révèlent bel et bien l'existence d'une relation amoureuse émanant de Macpherson. Je ne vois cependant pas en quoi elles peuvent avoir le moindre lien avec ce meurtre, sauf si bien sûr il avait rendez-vous avec la dame à l'instant précis où il a été assassiné. Peut-être cependant aurait-elle choisi de commettre son meurtre à un autre endroit que celui où la moitié des enseignants du collège avaient coutume de se baigner, remarquai-je. C'est bien dommage que plusieurs étudiants ne se soient pas trouvés ce matin avec Macpherson. Quelle malchance! Était-ce seulement de la malchance? Sardes fronça les sourcils et réfléchit. Ils avaient été retenus en cours par Jan Murdoch, admit-il. Celui-ci voulait finir de traiter une démonstration algébrique quelconque avant le petit déjeuner. Pauvre bougre, il est bien le plus affligé de toute cette affaire. Mais cependant, Macpherson et lui n'étaient pas bons amis. Il fut un temps où ils ne s'appréciaient guère, effectivement. Mais au cours de l'année passée, Murdoch a été très proche de Macpherson. Ce dernier n'était en outre pas d'un naturel très sociable. Je comprends, mais il me revient à l'esprit que vous m'aviez parlé d'une querelle entre eux à propos d'un chien. Elle avait été oubliée depuis longtemps. Mais non sans effacer tout le sentiment, bien certainement. Oh, si, je suis bien sûr qu'ils étaient réellement devenus amis. Bien, alors, dans ce cas, nous devons davantage explorer la piste de la liaison amoureuse. Connaissez-vous la jeune dame? Tout le monde la connaît, on sait la plus belle de tous les environs. Une vraie beauté, Holmes, qui attirait l'attention de quiconque. Je savais Macpherson amoureux d'elle, mais j'ignorais qu'il se soit tant avancé à en voir les lettres. Cette jeune fille, qui est-elle? La fille du vieux Tom Bellamy, le propriétaire des bateaux et des cabines de main des environs de Wordsworth. Il a commencé comme simple pêcheur, mais aujourd'hui une bonne situation. Il gère lui-même ses affaires, aidé de son fils William. Pouvons-nous nous rendre à Fulworth et les rencontrer? Sous quel prétexte? Oh, il sera aisé d'en trouver un. Après tout, ce pauvre bougre ne s'est pas ainsi lacéré le dos tout seul. Une autre main que la sienne tenait sans doute le fouet qui a causé ses blessures, si c'est bien d'un fouet dont il s'agit. Les suspects potentiels sont en nombre restreint dans ce lieu retiré. Procédons donc par élimination. Nous ne manquerons pas de découvrir le mobile qui nous mènera tout droit au criminel. Notre promenade parmi les downs parfumés de thym aurait pu être plaisante pour nous si nos esprits n'avaient pas été occupés de cet horrible meurtre dont nous avions été les témoins involontaires. Le village de Firthwall se nichait au creux d'un demi-cercle délimité par la baie. À l'arrière de la partie la plus vétuste du hameau, s'alignaient quelques maisons plus modernes construites en pente. Et c'était une d'elles qu'occupaient les belles amies et vers laquelle se dirigea Starkest. Voici The Haven, Dis donc qu'on t'a même donné les belles amies à leur demeure. C'est celle que l'on voit à la tourelle et au toit d'ardoise. Belle réussite en vérité pour un homme parti de rien, mais oh, regardez qui voilà. Le portail du jardin du Heaven venait de s'ouvrir pour laisser passage à un homme de grande taille, au visage long et anguleux. Il n'y avait pas à s'y méprendre, c'était Ian Murdoch, le professeur de mathématiques des Pignons. Quelques instants plus tard, nous le rencontrions sur la route. « Tiens !» lui lança Sturgess en guise de salut. L'homme nous adressa un bref signe de tête ainsi qu'un regard en coin de ses yeux sombres et nous aurait dépassé sans autre formalité si Sturgess ne l'avait de nouveau interpellé. « Que faisiez-vous ici » demanda-t-il. Le visage de Murdoch s'empourpra. Je suis votre subordonné, monsieur, dans l'enceinte de votre établissement, mais à l'extérieur, je ne suis pas tenu de vous rendre compte de mes moindres faits et gestes. » Si les nerfs de Starkets n'avaient été déjà mis à rude épreuve par les événements du matin, sans doute eût-il fait preuve d'une diplomatie plus étudiée dans sa réponse qu'il adressa à Murdoch. Dans les circonstances présentes, votre comportement est pure impertinence, monsieur. Votre curiosité me semble relever de la même appellation. Ce n'est pas la première fois que j'ai à déplorer votre subordination, monsieur Murdoch. Mais ce sera la dernière. Vous allez avoir l'obligeance de penser dès à présent à vous chercher une autre place. C'est effectivement ce que j'avais l'intention de faire. J'ai perdu aujourd'hui la seule personne qui me rendait les pignons fréquentables. Murdoch reprit sa route sous le regard furibond de Stardust. Cet homme n'est-il pas tout bonnement insupportable? Fulmina-t-il. L'élément qui interpella le plus au cours de cette scène fut la chance que me semblait avoir saisi M. Laurie Murdoch de s'éloigner de la scène du crime qui venait de se produire. Une hypothèse vague, encore nébuleuse, se formait dans mon esprit. Peut-être notre visite au bel ami l'éclairerait d'un ray de lumière. Starkus reprit une contenance adéquate et nous nous dirigeâmes ensemble vers la maison. M. Bellamy était un homme âgé d'une cinquantaine d'années, à la barbe rousse flamboyante. Il semblait de très mauvaise humeur, car la rougeur de son teint approchait celle de mes cheveux. « Non, 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 monsieur, je ne veux pas en entendre davantage. Mon fils ici présent, il désigna un vigoureux jeune homme, au visage sombre, retiré dans un coin de la pièce, était l'un des deux hommes honnêtes avec moi-même que Macpherson mettait en courtisant Maud. Non, 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 monsieur, le mot mariage n'a jamais que je sache été prononcé, et pourtant, il y avait des lettres, des rendez-vous et encore bien d'autres choses que ni mon fils ni moi n'approuvions. Privé de sa mère, nous restions les seuls protecteurs de Maud. Nous sommes déterminés. » Ces derniers mots furent interrompus par l'apparition soudaine de la jeune fille en personne. Il n'aurait pas été exagéré de dire qu'elle aurait charmé n'importe quel public dans le monde. Qui aurait pu imaginer fleurs si délicates poussées sur tel sol et au milieu de semblable atmosphère? Les jolies femmes n'ont que rarement exercé sur moi leur pouvoir de séduction, mais mon cerveau a toujours commandé mon cœur. Je ne pouvais contempler ce visage aux traits et aux coloris harmonieux sans m'émouvoir moi-même, à l'image de tout homme qui aurait croisé son chemin. La jeune fille se tenait sur le seuil, ses grands yeux fixant d'un regard intense Harold Stockhurst. Je sais déjà que Fritzoy est mort, dit-elle. Ne craignez pas de me choquer en m'apprenant les circonstances de son décès. Quelqu'un d'autre les a déjà précédés dans cette tâche, interrompit son père. Il est nullement nécessaire de mêler ma sœur à cette affaire, ajouta en grommelant le frère de la jeune fille. Maud se retourna avec fureur. Cela me regarde, William. Je te prie de me laisser me mêler de cette affaire comme je l'entends. C'est un meurtre dont il s'agit. Et aider à identifier le criminel qui l'a commis est la moindre des choses que je puisse faire en mémoire du disparu. Elle écouta avec attention le court récit que lui fit mon compagnon des événements. Sa concentration attestait de la force morale qu'elle possédait en plus de sa grande beauté. Maud Bellamy incarnera toujours dans mon esprit l'image de la plus accomplie des jeunes filles qu'il m'a été donné de rencontrer. Elle semblait déjà me connaître, du moins de nom, car elle se tourna ensuite vers moi et s'adressa à moi en ces termes. « Portez les criminels devant la justice, monsieur Holmes. Soyez assuré de mon aide, qui que de ces misérables puisse être. » Il me sembla qu'elle jetait un bref regard de défiance à ses pères et frères. « Je vous remercie, dis-je. J'ai eu l'instinct féminin, en l'instinct féminin la plus grande confiance. Vous avez employé le mot « criminel » au pluriel. Vous pensez donc que les auteurs du meurtre peuvent être plusieurs ? Je connaissais suffisamment M. Macpherson pour savoir que c'était un homme brave, fort et courageux. Je doute qu'un seul homme ait pu lui infliger un tel traitement. Pourrais-je vous dire un mot en privé ? Je t'ai déjà dit, dit Maud, ne pas te mêler de cette affaire, lui ordonna son père. Elle me jeta un regard d'impuissance. Que faire, monsieur Holmes ? Puisque tout le monde ici présent est déjà au courant des détails du meurtre, je suppose que je puis vous en entretenir ici, devant vos pères et frères, dis-je. J'aurais bien sûr préféré vous demander certaines explications en privé, mais puisque votre père ne semble pas disposé à m'accorder cet entretien, il devra prendre part aux délibérations. Je mentionnai alors le billet signé de sa main que j'avais trouvé sur le mort. Il sera très certainement porté à l'enquête. Puis-je vous demander de me l'expliquer d'aussi loin que vous le pouvez ? « Je ne vois aucune raison d'en faire mystère, » répondit-elle. « Nous étions fiancés et devions nous marier. Si nous gardions le secret de cet engagement, ce n'était qu'à cause de l'oncle de Fitzroy, qui, âgé et sur le point de mourir, n'aurait cependant pas hésité à le déshériter si son neveu avait choisi de se marier sans son consentement préalable. Il n'avait aucune autre raison à ce secret. »
« Tu aurais pu nous le dire, » grommela M. Bellamy.
« Je l'aurais fait, père, si jamais vous aviez, par le passé, manifesté une quelconque sympathie à l'égard de Fitzroy.
Je n'étais pas disposé à autoriser ma fille à se marier ainsi avec un étranger au village.
Ce sont vos préjugés à son égard qui sont la cause de nos secrets. Quant à ce rendez-vous... » Et elle porta la main à une broche de sa robe et en sortit un billet dans une enveloppe qu'elle me tendit. Il intervenait en réponse à celui-ci. « Ma chérie, au même endroit sur la plage, juste après le coucher du soleil, mardi, je ne pourrais m'échapper qu'à ce moment. Signé F.M. C'est aujourd'hui mardi. » Et je comptais alors le retrouver ce soir. Je retournai l'enveloppe. Ah, cette lettre ne vous a pas été adressée par la poste. Qui vous l'a apportée ? Je préférais ne pas avoir à répondre à cette question. Cela n'a vraiment rien à voir avec le meurtre. Mais pour tout autre, je suis parfaitement disposé à vous répondre. Elle tint parole, mais rien de ce qu'elle put nous dire ne me permit de préciser les circonstances du meurtre. Elle n'avait pas la moindre raison de penser que son fiancé eut des ennemis connus. Elle admit qu'elle avait pour sa part plusieurs soupirants. Puis-je me permettre de vous demander si M. Jan Murdoch est l'un d'entre eux? Elle rougit et sembla soudain confuse. Il fut un temps, je pense, que cela fut le cas, mais ses sentiments semblèrent s'évanouir soudainement, aussitôt après qu'il eut appris la relation qui me liait à Fitzroy. La silhouette qui se dessinait peu à peu dans mon esprit sembla soudain émerger de l'ombre. Il me sembla indispensable de nous livrer à une enquête sur le passé de Jan Murdoch. Ses appartements devaient être fouillés. Le concours de Starkest me serait sans doute acquis, car je pressentais que les mêmes soupçons s'étaient formés dans son esprit. Nous mîmes un terme à notre visite au Haven avec l'espoir que nous touchions enfin à notre but. Une semaine entière s'écoula, pourtant sans que notre enquête connaisse la plus petite avancée significative et sans que la plus insignifiante petite preuve eût pu être apportée à celle-ci. Starkest avait mené une enquête discrète sur son professeur de mathématiques et la chambre de Jan Murdoch avait fait l'objet d'un premier examen sans résultat. J'avais, pour ma part, l'impression que nous étions rendus à nouveau à notre point de départ, tant sur le plan matériel des preuves dont nous disposions, que sur celui des hypothèses qui se présentaient à nous, et ce, sans le moindre espoir de résolution imminente de notre enquête à l'horizon. Le lecteur ne pourra se remémorer aucune autre affaire parmi celles qui ont été déjà portées à sa connaissance, qui ne lui a donné l'impression que mes capacités de déduction avaient atteint leur limite extrême. Mes efforts d'imagination eux-mêmes ne pouvaient parvenir à faire entrevoir l'espoir d'une explication à cette mystérieuse tragédie. C'est alors que survint l'événement du chien. Ce fut ma vieille servante, par ce don rare et immatériel qu'a la population villageoise de se tenir constamment au fait des événements des alentours, qui en fut la première informée. « Un bien triste événement qui est arrivé au chien de M. Macpherson, M. Holmes !» me dit-elle un soir. Je n'avais pas coutume d'encourager les conversations ayant pour objet les on-dit du voisinage, mais le nom de Macpherson éveilla soudainement mon attention. « Qu'est-il arrivé à son chien ?» demandai-je. « Il est mort, monsieur, exactement de la même manière que son maître. » « Qui vous a informé de cela ?»« Oh, bien tout le monde ne parle que de cela. » Il a commencé par ne plus rien manger pendant toute une semaine. Et puis alors il y a eu une heure ou deux, les jeunes gens des Pignons l'ont trouvé mort sur la plage, à l'endroit même où son maître avait connu son sort funeste, monsieur. À l'endroit même. Ces mots résonnaient dans mon esprit. Une vague intuition me disait que là était sans doute la clé de ce mystère. La mort du chien, survenue peu après celle du maître, s'inscrivait parfaitement dans la lignée de la noblesse et de la fidélité de ces animaux, mais au même endroit. Pourquoi cette même parcelle de plage isolée avait-elle été fatale tant à Macpherson qu'à son chien ? Était-il possible que l'animal eût été également sacrifié par la poursuite d'un même sentiment de vengeance? Était-ce réellement envisageable? Certes, mon hypothèse était encore nébuleuse, mais quelque chose de nouveau venait de se présenter à mon esprit. Quelques minutes plus tard, j'étais en route pour les Pignons, où je trouvais Sturgis dans son bureau, sur ma requête. Il envoya chercher Sudbury et Browns, les deux étudiants qui avaient découvert le chien mort. Oui, il gisait sur le bord de la même petite piscine où son maître avait voulu se baigner, dit l'un d'eux. Il doit avoir flairé ses traces. On me conduisit au pauvre animal, un herd altérié, qui gisait sur le tapis du hall d'entrée. Le corps de l'animal était dagé et raidi, les yeux exorbités et les membres contorsionnés. Chaque parcelle de son corps exprimait la lente agonie que l'animal avait subie. Des Pignons, je me rendis à la petite piscine où le corps du chien avait été découvert. Le soleil venait de se coucher et l'ombre noire des falaises s'étirait sur l'eau limpide telle une feuille de plomb d'un éclat terni. L'endroit était désert et sans aucun signe de vie, à l'exception de deux oiseaux de mes gémissants volant en cercle au-dessus de l'eau. Dans cette lumière blafarde, je ne distinguais qu'avec peine les petites empreintes laissées par le chien autour du rocher sur lequel avait été découverte la serviette sèche et pliée de son maître. Alors je restais un certain temps plongé dans une intense méditation à cet endroit même, oublieux des ombres s'interdifiant autour de moi. Les pensées se bousculaient dans mon esprit. Le lecteur se rappellera peut-être un ou plusieurs instants au cours de sa vie lors desquels il savait détenir la clé d'un problème insoluble sur laquelle il ne lui parvenait cependant plus en dépit de ses multiples efforts à remettre la main. Cela est la description exacte de l'état dans lequel je me trouvais ce soir, seul sur cette plage morbide. Je m'extirpais alors de mes pensées et repris à pas lents le chemin de mon cottage. Et j'avais à peine atteint le sommet de la falaise que la vérité m'apparut soudain. Je me rappelais avec la plus grande certitude et la plus grande précision l'élément de réponse vers lequel mon esprit tendait en vain. Le lecteur sait bien, ou il n'aura pas lu avec suffisamment d'attention le récit de mes aventures conté par mon fidèle Watson, que je possède une certaine collection de connaissances diverses, sans ordre ni lien précis entre elles, mais d'une grande utilité dans la résolution de mes enquêtes. Mon esprit évoque une pièce encombrée de paquets de toutes sortes, dans lesquels on trouverait rapidement ce dont on a besoin si l'on pouvait cependant se remémorer à l'instant avec exactitude l'emplacement du paquet le contenant. Je savais quelque chose qui pouvait m'aider à résoudre cette enquête sans pour autant pouvoir l'identifier avec précision. Je savais à présent où chercher. C'était monstrueux, horrible. Et cependant, c'était une possibilité, je devais explorer cette piste. Il y a dans ma demeure une vaste mansarde pleine de livres. J'y montais et j'y restais une heure durant. Au bout de ce temps, je tenais entre mes mains un petit volume à la couverture brune et aux lettres d'argent. Je tournais fébrilement les pages jusqu'au chapitre dans lequel je croyais pouvoir trouver ce que je cherchais. Oui, cette hypothèse était certes osée, invraisemblable, et pourtant, je ne pouvais en détacher mon esprit avant de l'avoir éprouvée. Je me couchais très tard ce soir-là, l'esprit déjà tout occupé d'un programme que je m'étais fixé pour le lendemain. Mes projets furent cependant dans les premières heures du jour suivant fortement contrariés. J'avais à peine trempé les lèvres dans ma première tasse de thé, peu avant de me mettre en route pour la plage, que je reçus la visite matinale de l'inspecteur Baldle du département du poste de Success, un homme grand, solide, bovin, aux yeux songeurs, qui me fixait dans ce matin d'un regard particulièrement indécis. « Je sais votre grande expérience, monsieur, dit-il. Ma visite est un peu informelle, bien entendu, et je préférais qu'elle reste entre nous. Mais je suis très ennuyé par cette affaire Macpherson. La question que je désire vous poser en réalité, monsieur Holmes, est la suivante. Dois-je ou non faire procéder à l'arrestation de notre suspect ?
Vous voulez dire Ian Murdoch ?
Oui, monsieur. Nous ne voyons vraiment pas qui d'autre accuser. C'est un des avantages que présente notre isolement. Nous restons toujours en comité restreint. Qui d'autre, en effet, que Murdoch pouvait avoir commis le meurtre ?
Et quels éléments avez-vous retenus contre lui ?
Il avait procédé aux mêmes déductions que moi. Le caractère peu affable de Murdoch et l'aura de mystère qui se dégageait de toute sa personne, ses sortes d'humeur récurrentes, illustrées lors de l'incident du chien passé par la fenêtre, son ancienne discorde passée avec Macpherson et sa possible attirance pour Miss Bellamy, il argumentait à l'aide de l'ensemble de ces éléments dont aucun n'était nouveau et ne pouvait conduire à établir la culpabilité de Murdoch. L'inspecteur Bardell m'informa cependant que Ian Murdoch était en train de préparer activement son départ.
De quoi aurais-je l'air en le laissant filer alors que toutes les apparences sont contre lui ?
Le robuste et flegmatique inspecteur me semblait réellement perplexe. « Considérez, dis-je, les pièces manquantes à votre puzzle. Murdoch détient un alibi qui l'éloigne de Macpherson au moment où celui-ci a été assassiné. Il donnait un cours à ses étudiants, encore quelques minutes à peine avant que Macpherson ne vienne s'écrouler à nos côtés au haut de la falaise. » Gardez également à l'esprit qu'il n'aurait sans doute pas pu tout seul infliger un tel traitement à un homme d'une force au moins égale, si ce n'est supérieur à la sienne. Il y a enfin la question de l'instrument à l'aide duquel de telles blessures ont pu être infligées.
Quoi d'autre qu'un fouet ou tout autre instrument flexible similaire ?
« Avez-vous examiné les blessures ? » demandai-je.
« Oui, tout comme l'a fait le médecin qui s'est rendu auprès du corps. »«
Pour ma part, je les ai examinées très attentivement et à l'aide d'une loupe. Elles présentent quelques particularités. »«
Quelles sont-elles, monsieur Holmes ?»
Je me dirigeais vers mon meuble de bureau et saisis un agrandissement de photographie. Voici la façon dont j'ai coutume de procéder lorsque je me heurte à pareil mystère, expliquai-je.
Vos méthodes sont sans doute les bonnes, si l'on en juge par le résultat, monsieur Holmes.
Oh, je ne dois mes modestes succès qu'à leur application très stricte, en effet. Observons à présent cette marque en particulier qui est autour de l'épaule droite. Que remarquez-vous ?
Rien du tout, malheureusement.
Sans doute serez-vous d'accord pour affirmer qu'elle est d'une profondeur et d'une largeur variable en fonction de ce point de contact avec la peau. Elle a causé un épanchement sanguin ici et là encore. Il est possible de constater le même phénomène sur ces mêmes marques laissées plus bas également. Et que révèle-t-elle?
Oh, je n'en ai aucune idée, monsieur Holmes. En avez-vous pour votre part la moindre?
Oui, peut-être, ou peut-être pas. Je serai sans doute en mesure de vous en dire davantage très prochainement. Tout ce qui sera susceptible de nous renseigner sur l'instrument qui a laissé ses marques nous conduira tout droit au criminel.
Mais c'est bien sûr une idée absurde, me dit l'inspecteur. Mais si une grille de la barbelée, chauffée à blanc, lui avait été appliquée sur la peau, les épanchements que vous évoquez pourraient matérialiser les points d'intersection des fils.
Une comparaison des plus ingénieuses. Peut-être pouvons-nous également évoquer les marques laissées par un objet à neuf lanières, rigide, comportant de petits nœuds durs à chacune de leurs extrémités.
Ma parole, monsieur Holmes, on croirait que c'est vous-même qui l'avez frappé.
Oh, l'arme du crime pourrait aussi bien être tout autre, monsieur Bardle. Quoi qu'il en soit, les preuves dont vous disposez seront insuffisantes pour procéder à l'arrestation de Jan Burdorf. En outre, nous disposons de ces trois murs, crinières de lion. À ce propos, je me suis également demandé si c'était bien Lyon que nous avions entendu et non pas Yann. Oui, je me suis également posé la même question, mais je suis certain que c'est bien Lyon que Macpherson a tenté de nous dire, bien qu'avec les plus grandes difficultés.
Et avez-vous la moindre autre piste, monsieur Holmes?
Peut-être bien. Mais je préférerais ne pas l'évoquer avant d'être davantage certain qu'elle puisse nous mener quelque part.
Et quand pensez-vous être en mesure de le faire?
Dans une heure, tout au plus. L'inspecteur se frotta le menton et me considéra d'un air dubitatif.
J'aimerais avoir le pouvoir de lire dans vos pensées, monsieur Holmes. Votre piste nous mène-t-elle à des bateaux pêcheurs, aperçus au large du matin du crime?
Oh non, non, ils étaient bien trop loin déjà, lorsque nous sommes descendus.
Alors, c'est donc à bel ami et à son fils qu'elle vous mène. Il ne semblait pas particulièrement voir d'un bon œil la relation qu'entretenait Macpherson avec la jeune fille. Ne pourrait-il pas avoir tout bonnement voulu le mettre en garde?
Non, non, vous ne parviendrez pas à m'en faire dire davantage avant que je n'y sois moi-même disposé, dis-je dans un sourire. À présent, inspecteur, nous avons du travail chacun de notre côté. Peut-être que si vous voulez me rejoindre à nouveau, ici vers midi... C'est alors que survint l'événement qui allait marquer la conclusion de cette enquête. La porte de ma demeure s'ouvrit toute grande et un homme entra en titubant dans mon bureau. C'était Jan Meredorf, pâle, les cheveux et les habits en désordre, agrippant de ses mains osseuses les meubles pour ne pas s'effondrer sur le sol. « Un cognac! Vite, un cognac !» gémit-il. Il s'effondra sur le sofa. Il n'était pas seul. Stardust entra à son tour dans la pièce, tête nue et haletant, l'air aussi hagard que Murdoch.
« Oui, pour l'amour du ciel, un cognac » hurla-t-il.
Murdoch est à l'agonie. Oh, mais j'ai fait tout ce qui est en mon pouvoir.
Il a déjà défailli par deux fois sur le chemin.
Un demi-verre d'alcool eut un effet des plus bénéfiques sur Lord Ian Murdoch. Il put se redresser quelque peu et laissa tomber son manteau de ses épaules.
Pour l'amour du ciel, des huiles, de l'opium, de la morphine, hurla-t-il. N'importe quoi qui puisse mettre fin à ces tortures infernales.
L'inspecteur et moi-même eûmes un cri de stupeur. Là, sous nos yeux, sur les épaules dénudées de cet homme, apparaissaient les mêmes marques rouges et enflammées qui avaient été aperçues sur le dos de Fitzroy Macpherson et qui avaient causé sa mort. La douleur qu'endurait Ian Murdoch était évidemment terrible et s'étendait à tout le corps, car par moments la respiration du blessé s'interrompait, son visage devenait noir, et il plaquait dans des râles effrayants une main sur sa poitrine, tandis que son front ruisselait de sueur. Mon impression fut qu'il pouvait mourir à tout instant. Nous lui administrions force cognac, chaque nouvelle gorgée semblait le ramener pour quelques instants à la vie. Des compresses d'ouate imbibées d'huile alimentaire furent appliquées sur ses plaies et semblaient ramener le malheureux peu à peu à la vie en chassant l'agonie qui lui avait été infligée par ses affreuses blessures. Après quelque temps, sa tête retomba lourdement sur les cuisses coussins et il sombra dans un profond sommeil, ni conscient ni inconscient, qui constituait cependant une excellente alternative à ses douleurs. Il m'était impossible de questionner le malade, mais dès l'instant où nous fûmes quelque peu rassurés quant à son état, Stackhouse se tourna vers moi.
« Oh mon Dieu !» s'écria-t-il. « De quoi s'agit-il, Holmes ? À qui sommes-nous confrontés ?
Où l'avez-vous trouvé ?
En bas, sur la plage, exactement à l'endroit où nous avions trouvé la serviette de Macpherson. Si Murdoch avait été aussi cardiaque que l'était Fitzroy, il ne fait aucun doute qu'il serait mort également à l'heure qu'il est. Plus d'une fois, j'ai cru que c'en était fait de lui alors que je tentais de vous l'amener. Nous étions trop loin des pignons, alors j'ai immédiatement pensé à vous.
L'avez-vous aperçu sur la plage ?
Je marchais le long des falaises quand j'ai entendu un cri. Il était au bord de l'eau, titubant comme un homme ivre. Je suis descendu en courant, jetai prestement ses vêtements sur lui et le soutins pour vous l'amener. Pour l'amour du ciel, Holmes, usez de tout ce qui est en votre pouvoir pour éloigner la malédiction qui frappe cet endroit, car il nous sera fatal à tous. Pouvez-vous, au regard de votre réputation, quelque chose pour nous ?
Il me semble que oui, mon cher Starkest. Venez avec moi. Et vous aussi, inspecteur, nous verrons à nous livrer le meurtrier. » Laissant Murdoch toujours inconscient aux soins de sa femme de chambre, de ma femme de charge, nous nous éloignâmes tous trois vers le lagon maudit. À un endroit, sur les galets, gisait encore le petit tas formé par les vêtements et la serviette apporté par Ian Murdoch. Je me dirigeai lentement vers le bord de la petite piscine, mes compagnons en file indienne derrière moi. Le bassin était essentiellement peu profond, mais pouvait cependant atteindre à l'endroit où il touchait à la falaise jusqu'à 2 mètres de profondeur. C'était la partie du bassin vers laquelle se dirigeaient naturellement les nageurs, en raison de l'aspect transparent et cristallin que présentait naturellement la piscine en cet endroit. Une rangée de rochers en émergeait et touchait à la base des falaises, et je progressais prudemment sur ceci, examinant avec attention le fond translucide de l'eau. Je surplombais la partie la plus profonde du bassin, quand mes yeux aperçurent enfin ce que je cherchais, et je poussai une exclamation de triomphe. « Une cyanée !» m'écriai-je. « Cyanea capillata, ou encore appelée crinière de lion !» L'animal étrange que je désignais ressemblait effectivement à un enchevêtrement de poils revêches qui aurait été arraché à la crinière d'un lion. Il se tenait lové au creux d'un rocher, environ 1 mètre sous l'eau. C'était une étrange créature, mouvante, chevelue, faite de nombreux filaments argentés flottant parmi ce qui ressemblait à des tresses jaunes. Elle évoluait au rythme d'un mouvement lent de contraction et de dilatation successive. « Le meurtrier en a assez fait comme cela ! L'heure de son arrestation a sonné !» m'écriai-je. « Avec moi, Starhurst !» Un énorme rocher se trouvait juste à notre portée. Nous le poussâmes et il le tomba dans un énorme éclaboussement au fond de l'eau. Lorsque les rides s'estompèrent à la surface, nous constatâmes que nous avions atteint notre but. Il gisait au fond de l'eau, ne laissait dépasser qu'une infime partie de la membrane jaune de la cyanée. Une masse épaisse d'un liquide à consistance huileuse s'échappa de dessous le rocher et remonta lentement à la surface. « Ça, alors, je n'en reviens pas !» s'écria l'inspecteur. « Mais qu'est-ce que c'était que cela, monsieur Holmes ? Je suis né et grandi ici et je n'ai jamais rien vu de tel. Cette chose n'est pas de chez nous. »« Mais c'est tant mieux pour vous, dis-je. Il se peut qu'elle ait été apportée par la tempête qui a dernièrement soufflé du sud-ouest. » Retournons dans mon cottage, voulez-vous, et je porterai à votre connaissance les impressions d'une victime qui a également par le passé été confrontée à ce péril des mers. Nous trouvâmes à notre retour une amélioration sensible dans l'état de Jan Mulder, qui avait recouvré ses esprits et était à présent en état de se tenir assis. Il restait cependant étourdi et secoué de temps à autre par un spasme de souffrance violente. Il nous expliqua en phrases entrecoupées qu'il n'avait pas la moindre idée de ce qui lui était arrivé, en dehors du fait qu'il avait soudain ressenti une douleur fulgurante et qu'il avait dû rassembler toutes ses forces pour rejoindre la plage. « C'est ce livre, dis-je, qui a jeté un ray de lumière sur cette affaire qui aurait pu, sans lui, rester à jamais obscure. « Out of Doors » est un ouvrage écrit par le célèbre observateur John George Wood qui échappa lui-même à la mort après avoir été attaqué par cette dangereuse créature. Les éléments qu'il rapporte dans son ouvrage sont le fruit de sa propre expérience. Cyanea capillata est le nom complet de notre meurtrier. Le venin de cette méduse peut s'avérer plus dangereux et bien plus douloureux que celui influé par la morsure du cambra. Laissez-moi vous lire quelques passages du témoignage de Wood. Si le baigneur aperçoit un enchevêtrement de formes rondes et lâches de membranes et de filaments, évoquant un mélange de poignées arrachées à la crinière d'un lion entremêlé de reflets argentés, qui qu'il s'en éloigne au plus vite, car il s'agit de la terrible Sciarea capillata, qui afflige de terribles brûlures. Notre meurtrier pourrait-il être décrit en des termes plus éloquents? Wood poursuit par le récit de sa propre rencontre avec la Sciarea alors qu'il nageait le long des côtes du Kent. Il s'aperçut que cette méduse étendait de fins et presque invisibles filaments sur plus d'une quinzaine de mètres et que quiconque se trouvait dans un périmètre plus restreint autour d'elle se trouvait en immédiat danger de mort. Même à une certaine distance, l'effet des brûlures sur Wood faillit lui être fatal. Les multiples contacts avec la peau prirent la forme de fines lignes écarlates qui se révélèrent lors d'un examen plus approfondi autant de minuscules pustules écloses et reliées directement au centre nerveux. La douleur locale, poursuit Wood, n'est que l'aspect le moins pénible de toute la souffrance endurée. La poitrine est secouée de spasmes d'une intensité semblable à celle de nausées par des balles que cause la défaillance de la victime. Le pouls s'arrête soudain pour reprendre ensuite le temps de 6 ou 7 battements, si violent que ce cœur tremble de voir bondir de la poitrine. Wood se trouva bien proche de la mort, alors qu'il ne fut exposé à cette créature qu'en plein océan et non dans les eaux calmes d'un bassin. Il se décrit comme méconnaissable après avoir subi l'attaque, tout blafard, flétri, ridé, comme lui est apparu son visage. Il se précipita sur une bouteille de cognac qu'il but, et c'est d'ailleurs ce qui semble lui avoir sauvé la vie. « Je vous confie l'ouvrage, inspecteur. Je ne doute pas que vous y trouverez tous les éléments de réponse nécessaires à l'élucidation des circonstances de la mort du malheureux Macpherson. » « Pourvu qu'il m'innocente, » plaisanta Murdoch dans un sourire désabusé. Je ne vous blâme pas, inspecteur, ni vous, monsieur Holmes. Vos soupçons étaient bien naturels. Je regrette cependant de n'avoir échappé à mon arrestation qu'au prix du partage des terribles souffrances qu'avait averti moi-même endurer mon pauvre et défunt ami. Non, monsieur Murdoch, j'étais depuis longtemps que cette piste est... Je m'étais suivi comme j'aurais dû l'être plus tôt sur la plage. Je vous aurais épargné cette terrible expérience. Mais comment avez-vous su, monsieur Holmes? Je suis un lecteur chevronné qui a le sens tout particulier du détail. Ces 3 mots prononcés par Macpherson, crinière du lion, me hantaient. Je savais que je les avais lus ou entendus par le passé, quelque part, sans pouvoir me rappeler où. Vous avez constaté qu'ils correspondent à la description de la créature. Je ne doute pas que Macpherson l'ait aperçu, flottant à la surface, et que le seul avertissement qu'il ait eu le temps et la force de nous délivrer prit la forme de ces 3 mots dans une tentative de description désespérée de l'objet qui avait causé sa mort. Je suis donc reconnu innocent, dit Murdoch, en parvenant à se lever. Je souhaite néanmoins vous faire part de quelques éléments qui sont sans doute à l'origine de la direction qu'ont pris vos soupçons. Il est vrai que j'aime Maud un temps. Je l'ai même le jour où j'appris qu'elle en avait choisi un autre, de surcroît mon ami. Je n'eus plus d'autre désir
que celui de contribuer à faire son bonheur. Je devins leur confident. Je fus le messager de leur correspondance. Et ce ne fut que parce que je connaissais la nature de leur relation et que Maud m'était si chère que je pris la décision de lui apprendre moi-même ce qui était arrivé à Macpherson, afin d'empêcher qu'un autre ne s'en charge avec moins de délicatesse. Elle s'est probablement abstenue d'évoquer dans son témoignage nos liens d'amitié, car elle craignit certainement que vous ne puissiez douter de leur véracité et que ces révélations ne me portent préjudice. Avec votre permission, je vais à présent tenter de rejoindre les pignons, car il me semble qu'une bonne nuit de sommeil me fera le plus grand bien. » Starkhurst lui tendit une main amicale. « Nos nerfs ont été mis à rude épreuve ces derniers temps, » s'excusa-t-il. « Oubliez le passé, Mellock. Nous nous en comprendrons que mieux dans l'avenir. » Ils sortirent ensemble, Starkhurst soutenant son ami. L'inspecteur restait à me contempler de son regard bovin. « Eh bien, vous avez encore triomphé !» s'exclama-t-il. « J'aurais beau l'avoir lu, je ne l'aurais pas cru si je n'avais pas moi-même assisté à la tâche façon dont vous avez mené cette enquête. Vous êtes magnifique !» Je fus forcé de secouer la tête en signe de dénégation. Accepter pareil compliment eût été au-dessous de tout principe. Je fus lent à comprendre, d'une lenteur coupable. Le corps eût-il été trouvé dans l'eau, que j'aurais sans doute songé plus tôt à ce dénouement. La serviette m'induisit en erreur. Le pauvre bourreau, bien sûr, n'avait nullement eu le temps de plonger à se songer à se sécher, alors que pour ma part, je songeais tout bonnement qu'il n'était jamais entré dans l'eau. Dans ces conditions, comment l'attaque par une quelconque créature marine ne serait-elle venue à l'esprit? Ce fut de cette façon que je fis fausse route. Quoi qu'il en soit, inspecteur, si tenté d'avouer qu'il ne soit pas par le passé arrivé de sous-estimer les forces de police, soyez assuré que la Scania Capillata a vengé tout Scotland Yard de mes innocentes moqueries.